Alfred Dreyfus, 5 années de ma vie, journal, suite. Suite de mon journal, 8 janvier 1896. Les journées, les nuits s'écoulent, terribles, monotones, d'une longueur qui n'en finit pas. Le jour, j'attends avec impatience la nuit, espérant goûter quelque repos dans le sommeil. La nuit, j'attends avec non moins d'impatience le jour, espérant calmer mes nerfs par un peu d'activité. En lisant et relisant toutes les lettres de ce dernier courrier, j'ai compris combien ma disparition serait un choc terrible pour les miens, que mon devoir envers et contre tout était de résister jusqu'à mon dernier souffle. 12 janvier 1896. Réponse de Monsieur le Président de la République à la supplique que je lui ai adressée le 5 octobre 1895. Repoussée sans commentaire. 24 janvier 1896. Je n'ai plus rien à ajouter. Les heures se ressemblent dans l'attente angoissante, énervante, d'un meilleur lendemain. 27 janvier 1896. J'ai enfin reçu un colis sérieux de livres. Il m'est parvenu après de longs mois d'attente. J'arrive ainsi, en forçant ma pensée à se fixer, à donner quelques instants de repos à mon cerveau. Mais, hélas, je ne puis plus lire longtemps, tant tout est ébranlé en moi. 2 février 1896. Le courrier venant de Cayenne est arrivé. Il n'y a pas de lettre pour moi. 12 février 1896. Je viens seulement de recevoir mon courrier. Toujours rien. Et il faut que je lutte, que je résiste toujours. Quelques extraits de lettres de ma femme reçues à cette date. Paris, 9 décembre 1895. Comme toujours, tes lettres, attendues avec une vive anxiété, m'ont causé une forte émotion, un rayon de bonheur, le seul instant de détente et de joie que j'ai durant ces longs mois, ces journées lourdes et pénibles. Lorsque je lis ces lignes, si pleines de volonté et d'énergie, je sens que ton être tout entier vibre avec moi. Ton activité morale entretient mes forces et il me semble qu'elles sont doublées par la puissance de ta volonté. Paris, 19 décembre 1895. L'année dernière, à cette date, nous espérions être arrivés à la fin de notre calvaire. Nous avions mis notre confiance entière dans la justice. L'abominable erreur qui a été commise nous a remplis de stupeur. Une année entière s'est passée dans les plus atroces souffrances, tant par la blessure indigne qu'on nous a faite que pour la vie cruelle à laquelle tu es exposé physiquement et moralement. Paris, 25 décembre 1895. Je ne puis m'empêcher, avant le départ du courrier, de venir encore une fois causer avec toi. Ce sont toujours les mêmes choses que je te redis. Mais qu'importe, je te parle. Je me rapproche de toi pendant un instant, et cela me fait du bien. Je ne t'ai pour ainsi dire pas parlé des enfants, et ce sont cependant eux qui nous rattachent à la vie. C'est pour ces pauvres petits que nous supportons cette situation intolérable. Et Dieu merci, ils ne s'en doutent pas. Tout est joie pour eux. Ils chantent, ils rient, ils bavardent, ils animent la maison. Lucie. Suite de mon journal. 28 février 1896. Plus rien à lire. Journée, nuit, tout se ressemble. Je n'ouvre jamais la bouche. Je ne demande même plus rien. Mes conversations se bornaient à demander si le courrier était arrivé ou non. Mais on m'interdit de parler, ou du moins ce qui est la même chose, on interdit aux surveillants de répondre à des questions aussi banales, aussi insignifiantes que celles que je faisais. Je voudrais bien vivre jusqu'au jour de la découverte de la vérité pour hurler ma douleur, les supplices qu'on m'inflige. 3 mars, 6 heures du soir. Le courrier venant de Cayenne est arrivé ce matin, à 9 heures. Ai-je des lettres? 4 mars 1896. Pas de lettres. Quel supplice atroce, trop souvent renouvelé. 8 mars 1896. Journée lugubre. Tout m'est interdit. Le tête-à-tête perpétuel avec mes pensées. 9 mars 1896. J'ai vu arriver ce matin de très bonne heure le canot du commandant du pénitencier. Était-ce enfin quelque chose pour moi? Hélas, ce n'était rien, une simple visite de logement. Je ne vis plus que par une tension inouïe des nerfs, de la volonté, dans l'attente anxieuse de la fin de ces tortures sans nom. 12 mars 1896. Je viens de recevoir, enfin, mon courrier. Toujours rien, hélas. Extrait des lettres de ma femme reçues à cette date. Paris, 1er janvier 1896. Cette journée du 1er janvier est encore plus longue, plus pénible. Pourquoi, je me le demande. Les raisons de souffrir sont les mêmes, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit. Tant que ton innocence ne sera pas reconnue, le poids qui nous oppresse est trop lourd pour que nous puissions prendre part à la vie extérieure et faire une différence entre les jours, quels qu'ils soient. Et cependant, nous sommes sous une impression plus triste encore. Sans doute cela tient à ce que ces journées chez des êtres qui s'aiment tendrement sont des moments de très grand bonheur, de grande joie. Et nous, si malheureux, si cruellement atteints, nous éprouvons plus vivement encore le besoin de nous rapprocher, de nous soutenir et de maintenir nos forces par une solide affection. Paris, 7 janvier 1896. Je viens de recevoir tes lettres. Comme toujours, elles m'ont remué jusqu'au plus profond de l'âme. Ma joie et mon émotion sont intenses lorsque j'aperçois ta chère écriture, lorsque je me pénètre de ta pensée. Tes lettres montrent une grande énergie. Mais comme je sens percer ton impatience et comme je la comprends, comment pourrait-il en être autrement? Livré à toi-même, dans un isolement complet, rongé continuellement par des angoisses atroces, ne connaissant rien de la famille commise et qui nous rend si malheureux, arraché à tous les tiens en plein bonheur. La situation est certes la plus épouvantable qui puisse exister. Lucie. À la dernière lettre du courrier du mois de janvier étaient jointes les lignes suivantes de mon frère. Mon cher frère, oui, comme tu le dis dans ta lettre du 20 novembre, toute ma volonté, toute mon intelligence sont tendues vers un seul but, découvrir la vérité, et nous y arriverons. Je ne puis que me répéter jusqu'au jour où je pourrai te dire « La vérité est connue, la lumière est faite, mais il faut que tu vives jusqu'à ce jour ». Il faut que tu tendes toutes les forces de ton être pour résister à tes tortures morales et physiques. Et ce n'est pas au-dessus de ton courage. Matthieu. Suite de mon journal. 15 mars 1896, 4 heures du matin. Impossible de dormir. Ma tête est horriblement fatiguée par cette terrible inactivité physique et intellectuelle. Les envois de livres que Lucie m'annonçait dans ses 3 derniers courriers ne me sont pas encore parvenus. D'ailleurs, mon cerveau est si fatigué, si ébranlé, qu'il m'est impossible de lire pendant un long temps. Cependant, ces quelques instants où je puis échapper à mes pensées me procurent un léger soulagement. 27 mars 1896. Je viens enfin de recevoir l'envoi de livres que comportait l'expédition faite le 25 novembre 1895. 5 avril 1896. Le courrier du mois de février vient de me parvenir. Le coupable n'est toujours pas démasqué. Quelles que soient mes souffrances, il faut que la lumière se fasse. Donc, arrière toutes les plaintes. Extrait des lettres de ma femme reçues le 5 avril. Paris, 11 février 1896. Je n'ai pas encore reçu tes lettres du mois de décembre. Je ne me plaindrai pas des tortures que me fait endurer ce retard, c'est inutile. Personne ne peut comprendre à quel point les souffrances causées par l'inquiétude sont vives. Il n'y a rien de plus atroce que d'être privé des nouvelles d'un être que l'on sait très malheureux et dont la vie m'est 100 fois plus chère que la mienne propre. Souvent, dans mes heures de calme, je me demande pourquoi nous sommes si éprouvés, pour quelle raison nous sommes appelés à supporter un supplice à côté duquel la mort serait douce. Paris, 18 février 1896. Je suis toujours sans nouvelles de toi. Cependant, je sais que les lettres que tu m'as écrites sont au ministère depuis plus de 3 semaines. Je suis bien impatiente de les avoir et de recevoir enfin ma consolation de chaque mois. Chaque retard apporté dans le courrier me cause de pénibles émotions. Paris, 25 février 1896. À l'instant même où je terminais ma dernière lettre pour le départ du courrier, on m'apporte enfin tes lettres. Merci de tout cœur de ton admirable fermeté, des lignes si rassurantes que tu m'envoies. Lucie. Suite de mon journal. 5 mai 1897. Je n'ai plus rien à dire. Tout se ressemble dans son atrocité. Quelle horrible vie! Pas un moment de repos, ni de jour, ni de nuit. Jusqu'à ces derniers temps, les surveillants restaient assis la nuit dans le corps de garde. Je n'étais réveillée que toutes les heures. Maintenant, ils doivent marcher sans jamais s'arrêter. La plupart sont en sabots. Puis, le journal s'arrête pendant plus de 2 mois. Les journées se passaient également tristes, également angoissantes. Mais je gardais la ferme volonté de lutter, de ne me laisser abattre par aucun des supplices qui m'étaient infligés. Je fus en outre atteint en juin de forts accès de fièvre qui provoquèrent même des congestions cérébrales. Voici quelques extraits des lettres de ma femme que je reçus en mai et juin 1896. Paris, 29 février 1896. Lorsque j'ai reçu ton courrier de décembre, mes lettres étaient toutes prêtes à partir. Les quelques lignes que j'ai encore pu y ajouter n'ont pu exprimer qu'insuffisamment le bonheur, la joie immense qu'il m'a procuré. Tes paroles affectueuses m'ont bien ému. Lorsqu'on est bien malheureux, lorsqu'on a le cœur déchiré, l'âme triste, Rien n'est plus doux que de sentir, au milieu de tous ses chagrins, une affection sûre, un dévouement intense, dont toutes les forces vives, la volonté, l'intelligence, sont concentrées et tendues pour vous soutenir, et vous apportent, à défaut d'une aide efficace, un secours moral, qui, présent à toute heure, décuple les forces et vous empêche de défaillir lâchement dans les moments de douleur trop grande. Paris, 20 mars 1896. Tu peux t'imaginer l'angoisse que j'éprouve quand je vois arriver la deuxième quinzaine du mois, ce qui signifie pour moi le départ du courrier. Tant que ce moment n'est pas tout proche, j'espère même jusqu'à la dernière minute pouvoir t'annoncer le terme de tes souffrances, la fin de notre chagrin. Et puis les lettres s'en vont. Elles sont comme toujours vides de nouvelles, et un atroce déchirement se fait en moi à la pensée de la profonde déception que tu vas avoir. Paris, 1er avril 1896. J'ai vu partir avec une grande tristesse le dernier courrier. Jusqu'au dernier instant, j'avais espéré pouvoir te mettre une parole réconfortante. Mais courage, je te le demande avec toute la force, toutes les supplications de ta femme qui t'adore, au nom de tes enfants bien-aimés, qui t'aiment déjà de tout leur petit cœur, et qui auront pour toi une reconnaissance infinie lorsqu'ils comprendront la grandeur du sacrifice que tu leur as fait. Pour moi, je ne pourrais assez te dire quelle admiration j'ai pour toi, avec quelle tendresse ma pensée t'accompagne nuit et jour, combien je souffre de te sentir malheureux. Tes chagrins, ta douleur, toutes les sensations qui te torturent trouvent un écho dans mon être et me font subir des angoisses atroces. Rien ne peut me consoler de ne pouvoir vivre auprès de toi, de ne pas être là pour te soutenir, pour éviter les défaillances, pour atténuer tes souffrances. Dans cet épouvantable malheur, c'eût été pour moi un bien grand apaisement que de pouvoir t'entourer, de te faire sentir à tout moment qu'une nature aimante et dévouée veillait à tes côtés, toujours prête à entendre tes plaintes, à recevoir le débordement de ta douleur, de ta peine. Eh bien, cette affection si intense que j'aurais tant voulu t'apporter pendant ces chagrins s'accroît encore, si cela est possible, par les angoisses atroces que me donne la distance qui nous sépare, le manque de nouvelles, la vie si triste, si isolée que tu subis. Je renonce enfin à te décrire cet ensemble d'impressions. Elles sont trop douloureuses pour que je vienne t'en affecter, trop intenses et trop profondes pour les confier à cette feuille de papier si froide et si banale. Lucie. Suite de mon journal. 26 juillet 1896. Voilà bien longtemps que je n'ai rien ajouté à mon journal. Mes pensées, mes sentiments, ma tristesse sont les mêmes. Mais si la faiblesse physique et cérébrale s'accentue chaque jour, ma volonté reste toujours aussi forte. Je n'ai même pas reçu ce mois-ci les lettres de ma femme. 2 août 1896. Enfin, je viens de recevoir les courriers de mai et de juin. Toujours encore rien. Peu importe. Je lutterai contre mon corps, contre mon cerveau, contre mon cœur, tant qu'il me restera ombre de force, tant qu'on ne m'aura pas jeté dans la tombe, car je veux voir la fin de ce sinistre drame. Je souhaite pour nous tous que ce moment ne tarde plus. Extrait des lettres de ma femme reçues le 2 août 1896. Paris, 10 juin 1896. Je t'écris encore toute troublée par tes chères et bonnes lettres que je viens de recevoir. Au premier moment, quand je vois ton écriture chérie, quand je lis ces lignes qui m'apportent ta pensée, les seules nouvelles que j'ai pendant un grand mois, je suis comme folle de chagrin. Ma tête gonflée ne comprend plus. Je pleure à chaudes larmes. Puis je me ressaisis. J'ai honte de m'être laissée abattre par l'émotion, honte de ma faiblesse. Et je puise dans ta fermeté, dans ton énergie, dans ma puissante affection, une nouvelle provision de courage. Néanmoins, tes lettres me font un bien énorme, et si l'émotion me brise, j'ai le bonheur de te lire, l'illusion d'entendre quelques instants ta voix aimée. Paris, 25 juin 1896. J'ajoute encore quelques lignes à mes lettres avant le départ du courrier. Je tiens à te dire que je suis forte, que ma volonté est inébranlable, que j'arriverai à te faire rendre ton honneur, et je te supplie d'avoir avec moi cet espoir absolu en l'avenir, cette foi qui nous fait accepter les plus dures situations pour arriver à rendre à nos enfants un nom sans tache, un nom respecté. Lucie. Suite de mon journal. 30 août 1896. Voici de nouveau cette période si énervante où j'attends mon courrier, où je me demande quel jour il me parviendra et quelle nouvelle il m'apportera. Quel pénible mois d'août ma pauvre Lucie a dû avoir. D'abord, la lettre que je lui ai écrite au commencement de juillet, au milieu des fièvres qui me tenaient depuis une dizaine de jours, et ne recevant pas mon courrier. C'était tout à la fois, venant ajouter à mes tortures. Je n'ai pas su me contenir, me dominer, et lui ai encore jeté mes cris de détresse et de douleur, comme si elle ne souffrait pas déjà assez, comme si son impatience de voir arriver la fin de cet horrible drame n'était pas aussi grande que la mienne. Ma pauvre et chère Lucie. Puis le jour de sa fête a dû passer bien tristement. Je croyais qu'il ne m'était plus possible de souffrir davantage que je souffre. Ce jour-là, cependant, a été encore plus atroce que les autres. Si je ne m'étais pas retenue, avec une volonté farouche, comprimant mon cœur, tout mon être, j'aurais hurlé de douleur, tant ma souffrance était âpre, vive, violente. À travers l'espace, ma chère Lucie, je t'envoie en ce moment l'expression de ma profonde affection, de toute ma tendresse, et ce cri toujours le même, ardent, invariable. Courage et courage. Devant le but à atteindre, toute la vérité, tout l'honneur de notre nom, souffrance, torture sans nom, tout doit disparaître, tout doit s'effacer. 1er septembre 1896. Journée atrocement longue, dans l'attente, comme chaque mois, de mon courrier, à me demander aussi ce qu'il m'apportera. Je suis comme cristallisée dans ma douleur. Je suis obligée de concentrer toutes mes forces pour ne plus penser, pour ne plus voir. Quelle douleur, quel supplice pour toute une famille dont la vie tout entière est une vie d'honneur, de droiture, de loyauté. Mercredi 2 septembre 1896, 10 h du matin. Les nerfs m'ont fait horriblement souffrir toute la nuit. J'aurais voulu les calmer ce matin en marchant un peu. Mais il tombe une pluie torrentielle, extraordinaire à cette période de l'année, car nous sommes dans la saison sèche. Et de nouveau, plus rien à lire. Aucun de tous les envois de livres faits par ma chère Lucie depuis le mois de mars ne m'est encore parvenu. Rien, enfin, pour tuer l'atroce longueur des heures. J'avais demandé, il y a longtemps, n'importe quel travail manuel pour m'occuper un peu. Il ne m'a pas été répondu. Je scrute l'horizon à travers le grillage de la lucarne pour voir si je n'apercevrai pas quelques fumées. L'annonce de l'arrivée du courrier venant de Cayenne. Même jour, midi. J'aperçois à l'horizon du côté de Cayenne un panache de fumée. Ce doit être le courrier. Même jour, 7 heures du soir. Le courrier est arrivé en rade à 1 heure du soir. Je n'ai toujours pas de lettres. Je pense qu'il ne me les a pas apportées. Quel infernal supplice! Mais au-dessus de tout, plane immuablement le souci de notre honneur. Le but est là, invariable, quelles que soient toutes nos souffrances. Jeudi 3 septembre, 6 heures du matin. Nuit horrible de fièvre et de délire. 9 heures du matin. Le canot est arrivé et n'a toujours pas apporté mes lettres. Il est donc évident qu'elles sont restées à Cayenne, où elles sont depuis le 28 du mois dernier. Vendredi 4 septembre 1896. J'ai reçu hier au soir le courrier qui était arrivé, et il n'y avait qu'une seule des lettres que ma chère Lucie m'a écrites. Comme on sent chez tous une souffrance horrible, un désespoir farouche, de ne pas encore pouvoir m'annoncer la découverte du coupable, le terme de nos tortures à tous. L'eau me perlait du front à la lecture des lettres des membres de ma famille. Les jambes tremblaient sous moi. Est-il possible que des êtres humains puissent souffrir ainsi et d'une manière aussi imméritée? Devant une situation aussi atroce, les mots n'ont plus aucune valeur. On ne souffre même plus tant on est hébété. Ô ma pauvre Lucie, ô mes chers et bons enfants, ah, que le poids de toutes ces tortures sans nom retombe sur ceux qui ont poursuivi ainsi un innocent, toute sa famille, le jour où la lumière sera faite, où le coupable sera démasqué. Samedi 5 septembre 1896. Je viens d'écrire 3 longues lettres, successivement à ma chère Lucie, pour lui dire de ne pas se laisser abattre, mais d'agir, de faire appel à tous les concours, car une situation pareille, supportée depuis si longtemps, devient trop écrasante et trop atroce. Il s'agit de l'honneur de notre nom, de la vie de nos enfants. Devant ce but, tout doit se taire. Tout ce qui gronde dans nos cœurs, tout ce qui bouleverse nos esprits, tout ce qui fait monter l'amertume du cœur aux lèvres. Je ne parle même plus de mes journées, de mes nuits. Tout se ressemble dans son atrocité. Dimanche 6 septembre 1896. Je viens d'être prévenu que je ne pourrais plus me promener dans la partie de l'île qui m'était réservée. Je ne pourrais plus marcher qu'autour de ma case. Combien de temps résisterai-je encore? Je n'en sais rien. Je souhaite que cet horrible supplice finisse bientôt. Sinon, je lègue mes enfants à la France, à la patrie que j'ai toujours servie, avec dévouement, avec loyauté, en suppliant de toute mon âme, de toutes mes forces, ceux qui sont à la tête des affaires de notre pays, de faire la lumière la plus complète sur cet effroyable drame. Et ce jour-là, à eux de comprendre ce que des êtres humains ont souffert d'atroces tortures imméritées, et de reporter sur mes pauvres enfants toute la pitié que mérite une pareille infortune. Même jour, 2 heures du soir. Que ma tête me fait souffrir, comme la mort me serait douce. Oh, ma chère Lucie, mes pauvres enfants, tous les chers miens, qu'ai-je donc fait sur terre pour être appelé à souffrir ainsi? Lundi 7 septembre 1896. J'ai été mis au fer hier au soir. Pourquoi, je l'ignore. Depuis que je suis ici, j'ai toujours suivi strictement le chemin qui m'était tracé, observé intégralement les consignes qui m'étaient données. Comment ne suis-je pas devenu fou dans la longueur de cette nuit atroce? Quelle force nous donne la conscience, le sentiment du devoir à remplir vis-à-vis de ces enfants? Innocent, mon devoir est d'aller jusqu'au bout de mes forces. Tant que l'on ne m'aura pas tué, je remplirai simplement mon devoir. Quant à ceux qui se sont constitués ainsi, mes bourreaux, ah, je leur laisse leur conscience pour juge quand la lumière sera faite, la vérité découverte, car tôt ou tard, tout se découvre dans la vie. Même jour, tout ce que je souffre est horrible. Mais je n'ai même plus de colère contre ceux qui font ainsi supplicier un innocent, une grande pitié seulement. Mardi 8 septembre 1896. Ces nuits au fer, je ne parle même pas du supplice physique, mais quel supplice moral, et sans aucune explication, sans savoir pourquoi, sans savoir pour quelle cause. Dans quel horrible et atroce cauchemar vis-je depuis tantôt 2 ans. Enfin, mon devoir est d'aller jusqu'à la limite de mes forces. J'irai tout simplement. Quelle agonie morale pour un innocent, pire que toutes les agonies physiques. Et dans cette détresse profonde de tout mon être, je vous envoie encore toute l'expression de mon affection, de mon amour, ma chère Lucie, mes chers et adorés enfants. Même jour, 2 heures, soir. Mon cerveau est tellement frappé, tellement bouleversé par tout ce qui m'arrive depuis bientôt 2 ans, que je n'en peux plus, que tout défaille en moi. C'est vraiment trop pour des épaules humaines. Que ne suis-je dans la tombe? Oh, le repos éternel! Encore une fois, quand la lumière sera faite, oh, je lègue mes enfants à la France, à ma chère patrie. Mon cher petit Pierre, ma chère petite Jeanne, ma chère Lucie, vous tous que j'aime du plus profond de mon cœur, de toute l'ardeur de mon âme, croyez bien, si ces lignes vous parviennent, que j'aurais fait tout ce qui est humainement possible pour résister. Mercredi 9 septembre 1896. Le commandant des îles est venu hier soir. Il m'a dit que la mesure qui était prise à mon égard n'était pas une punition, mais une mesure de sûreté, car l'administration n'avait aucune plainte à élever contre moi. La mise au fer, une mesure de sûreté. Quand je suis déjà gardée nuit et jour comme une bête fauve par un surveillant armé d'un revolver et d'un fusil. Non, il faut dire les choses comme elles sont. C'est une mesure de haine, de torture, ordonnée de Paris par ceux qui, ne pouvant frapper une famille, frappent un innocent, parce que ni lui ni sa famille ne veulent, ne doivent s'incliner devant la plus épouvantable des erreurs judiciaires qui ait jamais été commise. Qui est-ce qui s'est constitué ainsi mon bourreau, le bourreau des miens? Je ne saurais le dire. On sent bien que l'administration locale, sauf le surveillant-chef spécialement envoyé de Paris, à elle-même l'horreur de mesures aussi arbitraires, aussi inhumaines, mais qu'elle est obligée de m'appliquer, n'ayant pas à discuter avec des consignes qui lui sont imposées. Non, la responsabilité monte plus haut, à l'auteur ou aux auteurs de ces consignes inhumaines. Enfin, quels que soient les supplices, les tortures physiques et morales qu'on m'inflige, mon devoir, celui des miens, reste toujours le même. Il est de demander, de vouloir, la lumière la plus éclatante sur cet effroyable drame, en d'innocents qui n'ont rien à craindre, qui ne craignent rien, puisque la seule chose qu'ils demandent, c'est la vérité. Quand je pense à tout cela, je n'ai même plus de colère. Une immense pitié seulement pour ceux qui torturent ainsi tant d'êtres humains. Quel remords ils se préparent quand la lumière sera faite, car l'histoire, elle, ne connaît pas de secret. Tout est si triste en moi, mon cœur tellement labouré, mon cerveau tellement broyé, que c'est avec peine que je puis encore rassembler mes idées. C'est vraiment trop souffrir, et toujours devant moi cette énigme épouvantable. Jeudi, 10 septembre 1896. Je suis tellement là, tellement brisée de corps et d'âme, que j'arrête aujourd'hui ce journal, ne pouvant prévoir jusqu'où iront mes forces, quel jour mon cerveau éclatera sous le poids de tant de tortures. Je le termine en adressant à Monsieur le Président de la République cette supplique suprême, au cas où je succomberais avant d'avoir vu la fin de cet horrible drame. Monsieur le Président de la République, je me permets de vous demander que ce journal, écrit au jour le jour, soit remis à ma femme. On y trouvera peut-être, Monsieur le Président, des cris de colère, d'épouvante, contre la condamnation la plus effroyable qui ait jamais frappé un être humain, et un être humain qui n'a jamais forfait à l'honneur. Je ne me sens plus le courage de le relire, de refaire cet horrible voyage. Je ne récrimine aujourd'hui contre personne. Chacun a cru agir dans la plénitude de ses droits, de sa conscience. Je déclare simplement encore que je suis innocent de ce crime abominable, et je ne demande toujours qu'une chose, toujours la même, la recherche du véritable coupable, l'auteur de cet abominable forfait. Et le jour où la lumière sera faite, je demande qu'on reporte sur ma chère femme, sur mes chers enfants, toute la pitié que pourra inspirer une si grande infortune. Fin du journal.